Merci d'être avec nous, on est en osmose et nous allons retrouver dans le cadre de nos rendez-vous avec l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, c'est Philippe Deschamps qui est avec nous, il est conférencier URSI, Université Rose-Croix Internationale. Philippe, bonjour.
Bonjour Serge Cazas, et bonjour à tous les internautes.
Alors, comment allez-vous ?
Comme un jour où il fait beau, le soleil brille, un petit peu comme un Graal, donc tout est bien pour entamer une conversation.
Vous êtes dans quel coin pour avoir du beau soleil, vous ?
Alors, je suis dans la région angevine, dans un tout petit village perdu dans la campagne.
D'accord. Alors, avec vous, nous allons parler de la légende arthurienne, le fameux roi Arthur, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs, on ne sait même pas s'il a existé, ce fameux roi Arthur.
Alors effectivement, on ne sait pas s'il a existé, il y a eu des recherches faites par des historiens qui ont pensé à un moment donné, au VIe siècle, qu'il y aurait eu un roi clé breton, qui aurait été un prototype d'Arthur, il y aurait eu une bataille qui serait déroulée également en Angleterre, la bataille de Camlan, lors de laquelle un chef guerrier breton aurait trouvé la mort, mais en fait, il n'y a aucune certitude sur la chose. Là, où ça devient intéressant, c'est quand on s'aperçoit que le mot Arthur est un nom symbolique, finalement.
Ah bon? Ça veut dire quelque chose ou...
Eh oui, exactement. Le mot Arthur, ça vient du celte ars, qui signifie ours, ou du latin, du grec, pardon, arctos, qui signifie l'ours. Et donc, ça fait référence d'ailleurs à la constellation de la Grande Ourse, qui était particulièrement apprécié chez les sept, puisqu'il l'appelait le chariot d'Arthur, la Grande Ourse. Et on trouve même dans le ciel une étoile qui fait référence au nom d'Arthur, qui est une étoile de la constellation du Bouvier, le Bouvier étant le conducteur justement de la Grande Ourse, du chariot. Cette étoile, elle s'appelle Arcturus.
D'accord. Donc un rapport avec l'ours, l'ours a une grosse symbolique aussi quand même.
Voilà, à cette époque-là, à l'origine du Moyen-Âge, l'ours était un peu l'équivalent du lion, hein, c'était le roi des animaux. Dans le nord de l'Europe, dans l'Arctique, il y a quand même des animaux qui mesurent 2 mètres à 2 mètres 50 de hauteur, qui pèsent 300 kilos, c'était vraiment un animal impressionnant. Et donc on associait la force de cet animal au roi, et donc l'idée du roi Arthur, le roi ours, finalement.
Il y a aussi une notion chez les Indiens d'immortalité, puisqu'il revient, il dort, et puis il revient, enfin de réincarnation, tout ça, l'ours après l'hibernation.
C'est ça, ah oui, tout à fait, tout à fait. Ben, on retrouve ça aussi dans les mythes arthuriens.
Ah bah oui, il est immortel, lui.
Voilà, c'est ça, à la fin d'une bataille contre son fils illégitime Mordred, il est blessé d'une blessure mortelle, sauf qu'il est emmené par un certain nombre de fées sur l'île d'Avalon, et il est censé revenir à la fin des temps, un petit peu comme le Christ, comme l'imam caché des mythes musulmans. Il y a toujours cette idée d'un retour des grands personnages qui sont finalement des symboles de la divinité, de la conscience universelle qui, elle, est éternelle et se manifeste sous des formes différentes, dont l'humanité est une de ces formes.
Voilà, il y a le courage, évidemment, puis le fait de pouvoir rassembler autour de lui, c'est un peu le point commun.
Effectivement, il rassemble 12 grands chevaliers dans certaines légendes, ils sont même 150 dans d'autres légendes, et ces chevaliers, ils sont autour de la table ronde, et finalement, la table ronde, c'est une projection du ciel sur la terre, puisqu'en réalité, chacun de ces chevaliers, quand on analyse leur rôle et leur fonction, ils représentent une des constellations du zodiaque. Donc Arthur, avec ses 12 chevaliers, c'est finalement le zodiaque avec au centre le fameux Graal vers lequel se tourne la quête vers laquelle se tournent tous les chevaliers. Et ce Graal, finalement, au centre de la table ronde, il fait penser aussi à l'étoile polaire. L'étoile polaire qui était considérée comme le lieu où les grands rois morts se dirigeaient après la mort quand ils étaient considérés comme étant justes. On retrouve même des notions comme ça en ancienne Égypte. Hein. Les pharaons étaient censés retourner vers l'étoile polaire.
D'accord. Vous dites 12 chevaliers autour de la table ronde, ça rappelle aussi les apôtres, hein, quand même. On est quand même dans
les apôtres, ça touche à la christianisation progressive de la légende, qui à l'origine n'était pas si chrétienne que ça. Ah. Ouais, n'était pas si cathodique que ça, comme dirait l'autre. Puisqu'il s'agit en fait d'une légende universelle, et j'en veux pour preuve le Graal lui-même, hein, vers lequel se tournent les chevaliers, c'est que c'est une coupe, et cette coupe, on la retrouve chez les Indo-Européens, on la retrouve chez les Celtes, hein, c'est l'équivalent du chaudron du Dagda, qui est en fait beaucoup plus connu que ce que l'on imagine, puisque ce chaudron du Dagda, on le retrouve, René Goscinny l'a dépeint sous la forme de la marmite de potion magique de Panoramix le druide. Or, qu'est-ce que c'est que la marmite de potion magique? Elle donne une force invincible aux guerriers gaulois. Dans la légende du Dagda, qui est un des grands dieux gaulois et irlandais, le dieu druide possède cette marmite. Et les guerriers qui sont morts au combat sont censés être trempés dans cette marmite et ils renaissent, donc ils deviennent immortels. Mais ça, c'est un aspect de la légende donc qui remonte bien avant les mythes chrétiens. Et c'est seulement plus tard que le premier roman, hein, il a été écrit par Geoffrey de Monmouth. Ensuite, on trouve au XIIe siècle Chrétien de Troyes qui invente le terme de Graal, mais dans la version de Chrétien de Troyes, le Graal n'est pas christianisé. Il sera christianisé un siècle plus tard par Robert de Boron dans ce qu'on appelle le Lancelot en prose, qui est un livre en cinq parties. Et là, on fait du Graal la coupe qui a recueilli le sang du Christ et qui a été emmenée jusqu'en Angleterre par un de ses disciples, Joseph d'Arimathie. Donc le sang, la notion de vie universelle, d'immortalité, etc. On retrouve tout cela. Donc Arthur, les 12 chevaliers, les 12 apôtres, c'est une christianisation progressive de la légende qui en fait est une légende universelle.
D'accord. Alors je vois derrière vous un livre sur les symboles. La légende arthurienne, elle en est truffée. On vient de voir avec le Graal, avec les douze chevaliers, même le fait que la table soit ronde. J'imagine que ça veut dire quelque chose aussi.
Ah oui, complètement, la table ronde. Alors c'est vrai que cette table, selon la légende plutôt chrétienne, au début elle était rectangulaire puisque c'était la table de la scène, c'est-à-dire la dernière réunion du Christ avec ses disciples lors de laquelle il partage le pain et le vin, le dernier repas, quoi. Et puis cette table, elle redevient, dans le mythe, elle devient carrée. Et finalement, lorsqu'elle est accueillie en Angleterre, le Graal est posé sur la table ronde et la société d'Arthur se réunit autour. Société d'Arthur, qui fait référence d'ailleurs à certaines conceptions platoniciennes du monde, hein, les écrits de Platon commencent à être connus, hein, au XIIe siècle. Une partie des écrits est arrivée au IXe siècle, la suite est arrivée au XIIe siècle, et on a eu la totalité vers le XVe, XVIe siècle. Et donc cette table, Platon parle d'un ciel circulaire qui représente l'âme universelle. Et donc cette table ronde, elle fait référence à cette âme universelle autour de laquelle se trouvent les douze aspects de la personnalité représentés par les chevaliers. Donc vous voyez, la table, elle était rectangulaire, elle est devenue carrée, et pour finir, elle est devenue ronde.
C'est la quadrature du cercle.
Ouais, oui, tout à fait. On peut
Quelque
aborder
part.
ces choses-là avec le rectangle. On avait le calcul du nombre d'or cher aux pythagoriciens, le passage du carré au cercle. Oui, la notion de quadrature du cercle, on peut l'envisager. Mais tout ça, ce sont des symboles finalement d'une réalité profonde à l'être humain. C'est que dans cette réalité, Arthur représente un petit peu la voie de la conscience humaine. Et le Graal, c'est l'âme dans laquelle cette voix s'exprime, c'est-à-dire que toute cette légende, elle nous parle du développement de l'être humain vers sa perfection, et cet être humain qui est incarné par les chevaliers et par Arthur et ses chevaliers qui partent à la quête du Graal, c'est-à-dire une certaine idée de perfection. Voilà. Une chose qui est importante à noter pour l'époque moderne, puisque effectivement notre société aurait tendance à faire de nous des producteurs, des gros consommateurs, à tel point qu'on en détruit notre nature, et puis aussi des reproducteurs, puisqu'on fait nos enfants, on est bien heureux de les avoir, mais la démarche arthurienne sous-entend que l'homme, c'est plus que ça, c'est aussi une dimension spirituelle, une réalité spirituelle vers laquelle il faut tendre pour atteindre un certain épanouissement. C'est la version de la quête, selon la version occidentale, finalement, l'épanouissement. Vous avez en Orient le bouddhisme, en Occident, vous aviez la quête du Graal, qui a été perpétué pendant tous ces siècles, et y compris à travers des œuvres cinématographiques aujourd'hui.
Et alors, la légende arthurienne, c'est le roi Arthur, évidemment, mais c'est pas mal de personnages autour. Bon, bah, on a vu, il y a les chevaliers, il y a Merlin, il y a son ennemi, j'oublie son nom.
Il y a Merlin, il y a Lancelot, il y a Perceval, il y a Bohor, il y a eu des quantités de romans. Hein. Les romans ont commencé à être écrits au 9e siècle. Le premier qui en a parlé, c'était un historien, entre guillemets, à l'époque, la notion d'historien n'était pas la même qu'aujourd'hui, qui s'appelait Nennius. Au XIe siècle, c'est Geoffrey de Monmouth, et puis à la fin du XIe siècle, c'est Chrétien de Troyes qui écrit le roman du Graal, un roman qui lui a été commandé par Philippe d'Alsace, qui était comte de Flandre. Il écrit également le Lancelot en prose, et il faut savoir que le Lancelot en prose a été écrit à la demande de la fille de la reine Aliénor d'Aquitaine. Donc c'est une femme qui commande ce roman, et justement, dans ce roman, on voit que la reine Guenièvre, pour Lancelot, c'est l'équivalent du Graal. C'est-à-dire que Lancelot se trompe de niveau sur lequel il doit porter sa quête. Il le ramène sur le plan humain, mais c'est pas mal quand même parce que il fait du Graal un équivalent de la dimension féminine, du sacré féminin. En fait, quand un chevalier part à la quête du Graal, en réalité, il part à la quête de la réalisation de lui-même, et cette réalisation lui-même, il s'aperçoit qu'elle passe par la prise de conscience d'une dimension féminine. Ça, c'est étonnant, puisque les chevaliers sont des guerriers, des battants, et tous ces romans ont été écrits aussi pour civiliser tous ces bagarreurs et leur faire prendre conscience d'une autre dimension plus pacifique de l'existence, qui passe justement par le développement de sa propre dimension féminine.
Chercher son anima, comme dirait Jung.
Exactement, c'est comme on dit, écrit le psychanalyste Carl Gustav Jung, bien sûr, oui.
Alors, il y a aussi des objets mythiques dans la légende arthurienne, une certaine épée qui est coincée dans dans la roche, puis qui se retrouve dans le lac avec cette fameuse dame.
Oui, effectivement, la fameuse épée Excalibur. Alors justement, un des éléments de preuve, s'il y en a, de l'origine celtique de la quête, c'est que tous les instruments des chevaliers, c'est-à-dire la coupe, l'épée, le bouclier, la lance, se retrouvent dans les attributs des grands dieux irlandais. Le Dagda, donc le dieu druide, lui qui possédait le fameux chaudron, la marmite de potions magiques, qui était source de nourriture, d'immortalité, de divination. Il y avait également le Nuada, c'est-à-dire le dieu roi, dont l'attribut c'était une épée. Il y avait le dieu Lug, que les Romains ont associé au fameux Mercure, qui lui détenait une lance, qui était censée percer toutes les armures. Et puis il y avait le bouclier, hein. Le bouclier, ça pouvait être aussi une forme de plat, enfin. On trouve tous ces éléments dans la tradition celtique. Alors ces éléments, ils se retrouvent dans les instruments des chevaliers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les a retrouvés plus tard dans les jeux de tarot, les jeux de tarot dits initiatiques ou divinatoires, puisque dans ces jeux de tarot, les cœurs, les piques, les carreaux, les trèfles trouvent leur équivalent dans les coupes, les bâtons, les épées et les deniers, qui sont finalement les instruments des chevaliers. Et là, on y trouve d'ailleurs une information intéressante, c'est que les coupes deviennent des cœurs dans les jeux de cartes, et ça rejoint le symbolisme du Graal, puisque une des interprétations du symbole du Graal, c'est qu'il représente le cœur de l'homme, finalement, dans lequel se fait un mariage entre sa dimension terrestre et sa dimension spirituelle.
D'accord, ben, toujours ce lien, ben, même le Graal, c'est cette représentation un petit peu quand même aussi du divin qui nous touche, enfin que l'on peut toucher. Vous êtes d'accord avec l'histoire du Da Vinci Code où ce Graal voudrait dire le sang royal et que ça ne serait pas une coupe?
Petite
question subsidiaire. Hein.
Pas vraiment. Alors, disons que ça va me permettre de dire que le domaine du Graal est aussi un domaine de grande inversion au niveau de l'interprétation du sens. Alors comment ? Il y a au moins quatre inversions. La première, c'est que souvent, on est allé chercher le Graal comme un objet extérieur à l'être humain, alors qu'en réalité, sa vraie nature se trouve d'être à l'intérieur du cœur humain. Ensuite, on l'a cherché comme un objet matériel. Il faut savoir que pendant la guerre de 39-45, la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont partis à la recherche d'un Graal matériel. Ils ont envoyé un certain nombre d'avions dans le sud-ouest parce qu'ils pensaient que le Graal se trouvait là-bas. Donc on fait du Graal, deuxième inversion, une réalité matérielle, alors qu'il s'agit d'une idée, une idée force, une idée modèle, une idée archétype, pour parler comme les platoniciens. La troisième notion, c'est que le Graal représente, c'est Platon qui dit ça, hein, je vous ai dit que la légende arthurienne était liée au mythe platonicien. Platon dit que l'homme était dans sa réalité spirituelle androgyne, c'est-à-dire il était à la fois mâle et femelle, et que le Graal était le reflet de sa dimension féminine. Or, l'autre inversion, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion des genres qui est entretenue. Et puis, la dernière inversion qui touche à ce que vous disiez, c'est-à-dire le sang royal, hein, la thèse du Da Vinci Code, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dynastie. En Angleterre, on a eu cette tentation-là. En France, on a cette tentation-là. En Allemagne, on cherche la lance qui porte une goutte de sang. C'est toujours une recherche de légitimation d'une dynastie dont le sang coulerait dans le Graal, c'est-à-dire le Graal serait porteur d'une royauté temporelle. En réalité, le Graal est un symbole d'une royauté, mais sur le plan spirituel. La royauté temporelle, c'est une forme d'usurpation. D'ailleurs, cette usurpation, on la trouve volontiers manifestée au château de Winchester en Angleterre, parce que dans ce château, vous avez une représentation de la table ronde, avec au centre le Graal représenté sous la forme d'une rose, et d'ailleurs ça fait le lien avec la rose des Rose-Croix, mais au sommet, vous avez une représentation du roi Henri VIII d'Angleterre, qui est un des rois les plus sanguinaires qui soit, puisqu'il a assassiné 6 de ses épouses, et il se fait représenter en lieu et place d'Arthur. Je crois même que le roi d'Angleterre, l'époux de la reine, il a un de ses prénoms qui est Arthur. Donc vous voyez, il y a toujours cette tentation à attirer une réalité spirituelle, à usurper cette réalité pour y retrouver une certaine légitimité. Le premier, c'était Geoffrey de Monmouth, hein, qui a écrit les légendes avant Chrétien de Troyes. En fait, il écrit les légendes pour sacraliser une histoire balbutiante de l'Angleterre, et il fait remonter l'origine de la dynastie anglaise à Aîné, prince de Troyes.
Voilà.
Donc ça, c'est important de le retracer, parce qu'il peut y avoir tout un tas de confusions sur le sujet.
Ouais, puis en ce moment, on parle beaucoup du droit du sang, du droit du sol.
Tout donc, à fait, c'est un petit lié, rapport. Complètement. Ouais. Et il ne faudrait surtout pas, enfin à mon avis, ce n'est pas le but que j'ai poursuivi en parlant du Graal. Le sang dont on parle, c'est plutôt l'énergie vitale qui se trouve dans l'univers entier et avec laquelle... Le chercheur du Graal, on pourra appeler ça un initié, on lui donne tout le nom qu'on voudra, mais va chercher à capter cette énergie vitale, eh bien, pour avoir une vie meilleure, pour être en meilleure santé, etc. C'est de ce sang-là que parle le Graal. Il parle également de nourriture. Il parle de nourriture, puisque quand le Graal apparaît à la table d'Arthur, eh bien, toutes les assiettes se couvrent des mets les plus succulents. Mais on sait bien qu'il s'agit en réalité d'une nourriture spirituelle, c'est-à-dire que toute personne qui s'intéresse aux questions pourquoi sommes-nous ici-bas, où allons-nous, ce que font les Rosicruciens aujourd'hui notamment, eh bien vont s'orienter vers un certain nombre de connaissances qui leur servira de nourriture spirituelle, qui participera d'ailleurs à leur équilibre en tant qu'être humain et vis-à-vis d'ailleurs dans leur relation même avec les autres.
D'accord.
Un homme heureux est un homme ou une femme heureuse est un homme ou une femme qui vit bien avec les autres.
Bah en plus, le Graal concerne le Christ qui, lui, a tout le temps eu ce message de spiritualité, pas du tout de matérialité.
Tout à fait. Et puis en plus, c'est un message universel. C'est-à-dire que c'est pas un message qui véhicule des notions de droit du sang, de droit du sol. Pour vous dire que c'est un message spirituel, il semblerait que d'après Chrétien de Troyes, c'est Philippe d'Alsace, hein, donc il lui commande les romans sur le Graal, notamment le roman sur Perceval le Gallois, Et Philippe d'Azas lui transmet le canevas de son roman qu'il aurait découvert en Terre Sainte. Or, il semblerait que dans certains mythes iraniens, il y ait soit décrite l'aventure d'un personnage tout d'abord qui s'appelle Jamshid et puis de son successeur qui s'appelle Kekosrou. Et toutes les aventures de ces deux personnages ressemblent à s'y méprendre aux aventures de Pérédur, le Perceval breton, et de Perceval lui-même. Donc il est bien possible que la légende, elle ait eu deux sources, une source celtique et une source iranienne, ce qui fait que nous avons vraiment affaire à des notions universelles qui touchent plutôt la fraternité humaine que l'exclusion.
Oui, comme beaucoup de textes anciens que l'on retrouve chez les Perses, chez les Babyloniens et dans la Bible, l'Ancien Testament, avec des histoires qui se ressemblent énormément quand même.
Exactement, exactement.
Alors pour finir, parce qu'on est toujours pris par le temps, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de cette légende arthurienne ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que ça peut encore inspirer notre jeunesse ?
Alors ça, c'est une question que j'adore parce que ça a été vraiment un grand sujet de méditation pour moi pendant des années. Apparemment, c'est une légende qui date du Moyen-Âge. Donc, la notion de chevalerie s'est éteinte avec la bataille d'Azincourt. Ce sont les Anglois qui ont mis fin à la chevalerie française en utilisant les arcs et les flèches ce jour-là. On pourrait croire que cette notion de chevalerie a disparu. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, être chevalier, c'est avoir une démarche particulière dans l'existence. C'est considérer que la psychologie humaine est réellement un champ de bataille. Alors, pas un champ de bataille dans lequel il faut oxyre ou tuer certaines dimensions dites négatives, mais un champ de bataille tout de même, qui a donc besoin d'une certaine vigilance. On a besoin de travailler comme un gardien de son cœur, un gardien de son âme, pour que la dimension matérielle de l'existence qui attire l'homme vers le bas, vers le sordide, ne prenne pas l'exclusivité de toute la conscience humaine. Et que, en réalité, la dimension spirituelle qui, elle, tire vers le haut, soit également favorisée pour finalement réaliser un équilibre. Un homme équilibré, c'est un homme qui équilibre, ou une femme équilibrée. Ce sont des êtres qui équilibrent le haut et le bas. Et donc, pour cet équilibre, eh bien, il y a besoin d'une vigilance quotidienne. Il faut savoir refuser certaines muses, certaines choses dans l'existence, si l'on veut vivre une existence épanouie. Et puis, pour faire quelque chose de moderne du Graal, eh bien, je dirais, vous savez, le XIIe siècle, ça a été le grand siècle des femmes. La porte s'est refermée depuis. Par l'époque bourgeoise, le statut des femmes a régressé. Mais il y a eu de grandes femmes au XIIe siècle, comme Aliénor d'Aquitaine. Au IIIe siècle, il y avait la mère de Louis IX, Blanche de Castille. Les légendes arthuriennes ont amené les guerriers, les hommes, à respecter les femmes. Dans le sud-ouest, il y avait les chants des troubadours qui chantaient l'amour pour la belle, etc. Ce sont vraiment des thèmes très actuels. Jean Ferrat a chanté la femme et à la suite d'Aragon, la femme et l'avenir de l'homme. Si on gratte dans cette notion-là, l'idée que finalement l'homme, il est vraiment complètement homme lorsqu'il a aussi réalisé sa dimension féminine tout en restant ce qu'il est, et que la femme est complètement femme lorsqu'elle a réalisé sa dimension masculine, là on trouve vraiment des notions modernes. Et on s'aperçoit également que pour réaliser ces dimensions complémentaires, il y a vraiment besoin d'un combat. C'est-à-dire que le chevalier doit s'armer de l'épée, de vigilance. La générosité, c'est quelque chose qui s'acquiert. Il faut lutter contre ses propres peurs pour devenir généreux, parce que la première réaction de l'être humain, c'est d'abord d'avoir peur vis-à-vis de l'autre, etc. Donc, il y a une notion de combat.
Bien. Et puis surtout de valeur, apparemment. Mais c'est très intéressant de transposer ça.
Parce qu'il y a bien une période où les valeurs ont été défendues, c'est bien au Moyen-Âge. Et notre époque, elle défend beaucoup de valeurs dans les médias, mais j'ai bien peur ça se situe trop au niveau du discours. Nous avons besoin aujourd'hui de valeurs qui se traduisent dans les faits. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de la nature et la fondation d'une fraternité. Parce que vu le développement humain aujourd'hui, Si l'on ne se bat pas pour défendre ses valeurs, eh bien, ce sera la disparition de l'espèce humaine, tout simplement. Hein.
Voilà. Ben, nous, on a des élections au mois d'avril. Peut-être que d'ici là, le roi Arthur reviendra pour nous sauver. Si tout va bien. Philippe Deschamps, merci beaucoup. On vous retrouve régulièrement, donc, j'imagine, lors de conférences proposées par l'URSSI.
Ah oui, ça fait 25 ans que je tourne dans tous les pays francophones et effectivement, on peut me retrouver dans les grandes villes de temps à autre. Bientôt, je vais faire un petit tour dans les Charentes, mais il y a un programme qui va charger. C'est un peu difficile actuellement avec le Covid, mais ça va reprendre, les activités vont reprendre.
Eh ben, si vous passez par Avignon, vous nous faites coucou et on parlera de vous. Merci, Philippe Deschamps. Bonne journée et puis à très bientôt.
Bonne journée.